Bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, je vous présente Amélie Macoin, qui est digital nomade à impact positif. Bonjour Amélie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un peu d'où tu viens ?
Bonjour Lucie, donc je viens, là j'en suis en fait à ma troisième vie professionnelle on va dire, parce que j'ai commencé à travailler comme adjointe de communication dans la grande distribution, totalement en cohérence avec mes envies vu que je voulais travailler dans le secteur culturel. Voilà, donc ça a été la proposition qu'on m'a fait 3 mois après mes études. Donc j'ai fait oui, allez, j'y vais, mais pas longtemps. Genre dans 6 mois, je reviens dans la ville où je veux vivre. Mais voilà, non, ça s'est pas effectivement fait comme ça. Et puis j'étais, bon, maintenant je m'en rends compte, mais voilà, j'étais dans un espèce de cercle vicieux de manque, de je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et voilà, j'ai auto-entretenu la chose pendant 5 ans.
T'as fait quoi comme études ?
C'était des études de communication. Communication et au début, commerce. DUT Tech de Co, où on apprenait justement à créer les besoins. Et là, j'ai fait, comment ça ? C'est quoi ce truc ? Donc là, je me rendais compte que non, je voulais pas aller dans cette voie-là. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué effectivement communication. Et depuis la communication, passer d'agence de com à plutôt secteur culturel et bosser pour des théâtres. J'ai fini quand même en 2012 à trouver un contrat aidé auquel je n'étais pas censée prétendre parce que je ne rentrais pas dans les cases pour une compagnie de cirque contemporain. Donc ça, c'était vraiment super. Donc cirque contemporain, je précise, ça veut dire pas d'animaux, hein, et j'allais dire pas de chapiteau. Bah, il y avait un chapiteau avec une ville partenaire, mais effectivement, c'est voilà comme une compagnie de danse en fait, avec des spectacles qui se font à peu près partout, majoritairement en France, mais on a quand même réussi à bouger un peu en Espagne quelques fois. Et là, c'était vraiment voilà le job de rêve, à bosser 3 jours et demi par semaine. J'arrivais à avoir 2 mois de voyage donc cumulé, hein, pas 2 mois à la suite, mais du coup voilà super expérience. Et voilà, moi je m'étais pas du tout dit que je quitterais ce poste-là, quoi. Et puis parce que j'ai vraiment eu en plus la possibilité de le faire en 2015, et puis j'ai fait « Ah non, je veux rester avec la compagnie, il y a des soucis financiers, mais voilà, on a réussi à rebondir, et du coup, j'ai fait « Ouais, je… »
Et avec eux, tu faisais la communication ?
Ouais, communication, mais en version large, donc avec aussi la vente des spectacles, donc ce qui est la diffusion, et puis après sur les événements aussi, partie billetterie, accueil artiste, donc un truc au final, voilà, super diversifié, et c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup, quoi, parce que la compagnie, du coup, crée des spectacles et les diffuse, mais a aussi une grosse partie médiation. Donc ça, moi, j'étais moins active dessus, mais aussi surtout événements. Et là, un festival, du coup, de 3 semaines avec, justement, création de spectacles, donc billetterie, spectacle professionnel, avec l'accueil de… Ouais, le dernier, quand même, c'était l'accueil de 18 artistes femmes au plateau. Là, c'était un truc de dingue, mais c'était vraiment, vraiment super… Super édition, et d'ailleurs, je suis partie juste après ce festival-là parce que pour moi, c'était hors de question de partir avant le festival, quoi. Je voulais vraiment faire la boucle parce que finalement, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que ben voilà, j'étais toujours dans une espèce de même routine et que ben, j'avais moins d'entrain, moins de plaisir à faire ce que je faisais. Et puis, je me suis rendu compte que ben, du coup, ouais, j'étais moins efficace aussi pour la compagnie, et du coup, le rêve que j'avais au départ, qui s'était bien enfoui d'être digital nomade, où j'avais dit « Ouais, mais non, je ne veux pas être blogueuse voyage, je ne veux pas faire du développement informatique, je ne veux pas être graphiste. » Et pour moi, il y avait juste ces 3 métiers qui autorisaient ça. J'avais fait « Bon, bah voilà, je laisse tomber. » Et puis quand même, au fur et à mesure, c'est revenu, l'envie est revenue, et j'ai commencé à me former. Et c'est après, bon, 2017, du coup, que j'ai vraiment fait « Allez, go, on va changer des choses. » Donc voilà.
Ok, donc tu as toujours eu en fait cette espèce de besoin de à la fois travailler dans la communication et voyager.
Ouais, mon tout premier salaire en fait, ça a été effectivement pour acheter un voyage. La première fois en plus que je prenais l'avion, voyage all inclusive en Grèce, où je trépignais les rares journées où on est resté à l'hôtel, où moi j'avais juste envie de partir et de découvrir. On était dans les environs d'Athènes, mais voilà. Depuis j'ai pas mal changé ma façon de voyager effectivement.
Donc aujourd'hui, tu es digital nomade. Qu'est-ce que tu fais comme travail pour gagner ta vie justement et te permettre de travailler un petit peu d'où tu veux?
Eh ben, c'est autour de la rédaction web globalement. Et donc, je travaille avec des blogueurs. Je travaille notamment avec une auteure qui travaille sur permaculture et finance. Donc, avec elle, j'ai réactualisé pas mal de choses sur son blog. J'ai travaillé aussi avec un digital nomade sur son e-book. J'ai aussi fait des recherches pour un conférencier dans le développement personnel. En fait, c'est des choses finalement qui sont assez variées, assez différentes. Des textes aussi pour des sites internet pour majoritairement des gens qui sont dans le bien-être. Et l'idée, c'est vraiment de défendre des messages qui moi me plaisent, et pas effectivement de faire un truc je le prends parce que si quand même j'ai besoin d'argent, si machin, allez je prends, j'accepte tout, et que du coup se retrouver dans une espèce de mécanisme un peu comme dans un boulot salarié. Et j'étais un peu dans ce truc là sur la fin de l'année dernière, et j'ai fait hop, non stop, j'ai pas envie que ce soit ça, et je veux vraiment choisir effectivement les clients. Et ça marche dans plein de domaines aussi. J'ai découvert assez récemment la danse libre, et c'est ça en fait. C'est, je veux pas qu'on me dise quoi faire. En fait. C'est avec plaisir de faire des choses pour les gens, au contraire. Mais par contre, il y a vraiment ce truc de envie de liberté, quoi.
Donc les prestations que tu proposes, c'est tout ce qui est arranger les mots,
utiliser l'écrit pour des gens qui n'ont pas le temps ou pas forcément les compétences pour le faire. J'avais fait aussi des sous-titres, mais c'est quelque chose qui est super, super chronophage, donc qui m'est arrivé de faire de temps à autre aussi. Des choses utiles avec les mots, et puis comment, les gens qui n'ont pas forcément non plus... c'est pas forcément facile de parler de soi, et c'est vrai que ça revient aussi à ce que je faisais, en fait, pour la compagnie de cirque pour laquelle je travaillais, sur les dossiers de spectacle, ce que je faisais aussi dans la grande distribution, mine de rien, avec le journal de l'entreprise. Après, effectivement, tout est lié. Il y a quand même clairement des choses qui se réutilisent.
Donc, dans le mot entrepreneur à impact positif, en fait, c'est dans le choix de tes clients, tu choisis des clients qui ont un impact positif?
Oui, c'est ça. Et après, dans le choix de mes clients, dans le choix de mon comportement aussi, moi, de consommation à titre individuel. Donc, je n'ai plus de voiture pour cause d'accident il y a plusieurs mois. Mais de toute façon, je m'en servais pas vraiment. Et quand je voyage, parce qu'effectivement, forcément, l'avion, dans le genre bien polluant, on est pas mal. Mais j'essaye justement de voyager sur des longues durées, ou quand je peux prendre le train. Donc quand j'ai allé passer une semaine à Amsterdam au mois de janvier, j'ai pris un Interrail. Donc c'est pas que pour les jeunes étudiants, en fait, ça fonctionne. Et du coup, ça m'a permis de faire un arrêt à Paris. Enfin, j'avais un séminaire après sur Paris, donc ça me revenait finalement moins cher de passer par là. Et puis c'était plus cohérent en termes de dépenses. Et pareil aussi au niveau de voyage, c'est toujours pareil aussi, mais en termes de consommation et de voyage léger, de cosmétiques, du coup, quasi que du fait maison, des choses pures. Parce qu'au final, je fais pas forcément tant de cosmétiques maison, mais c'est genre pour le visage et le corps aussi, surtout quand je suis en voyage, c'est huile de jojoba et ça marche très bien. Enfin, savon sous forme de savon, shampoing solide aussi, toutes ces petites choses-là qui permettent d'alléger finalement le portefeuille, parce qu'on se rend pas compte, mais du coup, quand t'achètes un savon, en fait, t'achètes de l'eau, enfin, quand t'achètes un savon liquide, un gel douche, un truc, t'achètes de l'eau, t'achètes tout le marketing qui est avec, t'achètes le packaging.
Et donc, ce mode de vie léger te permet de faire donc plusieurs voyages. Tu nous as parlé d'Amsterdam, t'as été au Sénégal aussi, et là, récemment, t'as été à Auroville.
Ouais, à Auroville en Inde. Donc Auroville, j'étais censée au début passer 5 jours après une retraite donc de yoga et bains sonores. Premier jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait je viens tous les ans, quasiment tous les ans depuis 26 ans et tout. Je me disais mais comment c'est possible? Je trouvais ça hyper bizarre. On était déjà allé juste une journée pendant la retraite. Et j'avais trouvé ça assez particulier, assez fermé en fait, avec beaucoup de...
Ouais, tu peux nous donner un peu de contexte.
Auroville, c'est une ville utopique en Inde, donc qui est à côté de Pondichéry, donc c'est dans le sud de l'Inde. Et donc là, j'y étais pour les 51 ans. Donc c'est finalement quelque chose d'assez récent. Et l'objectif, c'est vraiment que ce soit une ville ouverte à tous les humains, donc sans distinction de religion, de sexe, de nation. C'est pas totalement autonome du gouvernement indien, mais voilà, ça a vraiment une place à part. Et l'objectif était qu'il y ait, je crois, genre 40 000 personnes ou 50 000 personnes. Et en réalité, en gens qui vivent vraiment à Auroville, il y en a, je crois qu'ils sont pas encore à 3 000. Et c'est moitié des Indiens, moitié des Français. Parce que donc ça a été fondé par Sri Aurobindo, donc un Indien, et donc la mère, donc j'ai même pas son nom, son vrai nom, c'est partout la mère, dans les années du coup 60, 68. Et c'est fou parce que à la base c'était quand même un désert quoi, c'est vraiment un désert. Et,
donc la mère juste c'est la femme de Sri Aurobindo qui.
Ouais,
lui, il a conceptualisé la ville, c'est ça. Et quand il est décédé, c'est elle qui l'a mise en place.
Ouais. Après, les deux ont commencé, ensemble. Ouais. Et puis après, il y a eu les premiers pionniers. Il y a des communautés aussi qui sont installées. Il y a des communautés aussi qui sont installées plus récemment. Là, il y a les Sadhana Forest. Enfin, ils ont recréé une forêt aussi, pareil, dans un endroit où il y avait bah, juste pas de forêt. Et eux, Sadhana, ça fait pas encore 20 ans. C'est entre 15 et un peu plus de 15 ans. Et ça, on le voit vraiment hein, que c'était un désert avant parce qu'effectivement bah, quand on circule dans la ville donc il y a une espèce de couronne en goudron, il y a des routes aussi pavées mais après le reste c'est plutôt de la piste dans le sable et notamment quand on est en vélo parce que du coup moi, j'ai pris un vélo là-bas on est bah, au milieu de la forêt mais sur du sable et c'est vraiment ce côté désert et d'une ville créée de rien. Et après, ce côté, effectivement, pas de nationalité, mais en même temps, il y a des pavillons par nation, plus ou moins par continent. Parce que le processus, en fait, pour devenir eurovilien, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit un truc hyper ouvert, finalement, c'est quand même assez fermé. Parce qu'il y a un an de volontariat, en fait, pour les personnes qui veulent rentrer et devenir eurovilien. Donc au début ils sont appelés newcomers et il y a tout un processus et je pense que voilà ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a que 2000 et quelques personnes mais après alors je sais pas combien de personnes qui gravitent ville après c'est pas forcément pendant toute l'année là c'est j'étais vraiment ouais, entre mi-février et mi-mars et mi-mars on voyait vraiment que c'était un peu la fin de la saison en fait il y a une espèce de saison où enfin moi j'ai vraiment eu l'impression là pendant 2 semaines et demie d'être dans une espèce de festival permanent où il y avait des activités mais partout parce qu'il y a un truc en fait c'est l'espèce de bible d'Auroville qui s'appelle le News and Note et c'est une espèce de newsletter donc en PDF ou en papier dans les guest house où il y a mais tout ce qui se passe là-bas il y a énormément de alors, projection de films, j'ai pas trop exploré. J'ai découvert pas mal de pratiques comme les chants de mantra, la danse chakra dance, enfin, tout un tas de choses. Et vraiment chouette. Et puis, qui rassemble les gens, des gens qui seraient pas forcément retrouvés autrement. Et puis, avec énormément de bienveillance, énormément d'amour entre les gens. Enfin, c'était vraiment, ouais. J'ai compris quand même assez rapidement effectivement le pourquoi le gars que j'avais rencontré en arrivant me disait qu'il revenait tous les ans ouais c'est vraiment un lieu rassembleur quand même je trouvais il y a après bon sur le du coup je l'ai pas fait sur deux semaines et demie mais il y a des fermes en permaculture notamment une ça a été créé en 2006 mais là maintenant c'est une jungle quoi on se dit pas qu'avant c'était vraiment un désert et c'est ouais le genre d'endroit en plus où on mange super super bien pour pas très cher et le gars qui a lancé ça est vraiment passionnant il organise régulièrement des workshops je retournerai là-bas un peu plus longtemps
donc est-ce qu'il y a internet à Auroville est-ce que c'est une ville qui se prête au digital nomade est-ce que c'est digital nomade friendly
que c'est digital nomad friendly genre hyper hyper facile parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits pour avoir internet mais il y en a et moi juste à côté de la guest house où j'étais à genre j'y allais en vélo ça devait me prendre genre 2 minutes en vélo il y a un café donc qui s'appelle justement Oro Vélo où là-bas il y avait un super super connexion internet et un ventilateur ce qui était assez utile parce qu'il commençait quand même à faire sacrément chaud bon alors officiellement 34 mais c'était quand même ressenti 40 avec la chaleur donc tu fais ah ouais ouais, quand même avec l'humidité, ouais, d'accord. Donc il y avait ce premier spot-là que j'avais trouvé à proximité vraiment chouette, et après j'en ai découvert un deuxième qui me permettait de bosser en extérieur, donc de réussir à être dehors, à l'ombre, et du coup bah, dans un coin tranquille, et puis en plus bah, à ce moment-là il n'y avait pas forcément, en plein après-midi, les gens n'étaient pas forcément dehors et mangeaient pas spécialement, donc super calme, et du coup ouais, ce spot-là qui était un petit peu plus loin de ma guest house, mais genre quand je dis un petit peu plus loin, ça devait faire aller à tout casser 10 minutes de vélo. J'y retournerai aussi là-bas.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta routine quotidienne, tout ce que tu fais? Je crois que tu as pas mal de trucs que tu fais le matin, quel que soit l'endroit où tu te situes.
Ouais.
Et puis après, tu te mets au boulot. Ça se passe comment? Vers quelle heure? C'est quoi les étapes?
Alors, vers quelle heure déjà, c'est pas le réveil qui décide, sauf si j'ai un vol, un rendez-vous, mais normalement, voilà, je me débrouille pour pas mettre de rendez-vous. Et ce qui fait que bah, l'hiver en France, ça peut être facilement 8-9 heures. Mais effectivement, à Auroville ou dans des endroits où il fait chaud, bah, c'est à 6 heures, j'étais réveillée et en même temps hyper, hyper contente parce que bah, au milieu des oiseaux, des animaux, il y a des espèces de petits écureuils trop mignons qui se baladent et qui font des bruits assez incroyables. Et puis du coup, en plus, à cette heure-là, il fait vraiment, vraiment super bon. La température est top. Et donc, la première chose, c'était yoga, donc notamment yoga dans le lit, parce que pendant la retraite de yoga, là, j'ai appris une petite routine de yoga chakra par chakra dans le lit, donc c'est assez assez pratique. Ouais, très très pratique, et puis c'est assez court, donc le seul truc, c'est, ouais, il y a un truc avec les bras en arrière. Bon, si t'as un mur derrière ton lit, c'est pas très pratique, mais tu peux plier les jambes, ça passe quand même. Et ça, en fait, la routine de yoga, c'est un truc que j'ai maintenant, ouais, depuis 3 ans, donc c'est pas forcément long, hein. Au début c'était 10 minutes, là ça ouais, c'est plus 20 minutes quand même maintenant, je rajoute pas mal de petites choses, mais j'avais commencé à faire ça justement bah, en voyage aussi, dans le cadre d'un stage de danse. C'était quand même un super souvenir de voyage, de faire les mêmes mouvements que ceux que je faisais sur la plage, dans le contexte du voyage, et après il y a eu la fameuse donc opération de l'épaule où là j'ai été obligée d'arrêter effectivement le yoga, mais j'avais d'autres exercices de kiné, et au fur et à mesure, mais genre quand même super vite, je me suis rendu compte que les exercices de kiné, les exercices de yoga, mais genre c'est fusionné quoi. ce que mon kiné me demandait était hyper proche de ce que ouais. Le yoga faisait, j'étais à waouh, c'est, et j'avais vraiment réussi, donc à ce moment-là j'étais encore salariée, j'avais réussi à me dégager du temps le matin pour les exos de kiné. J'ai fait non, mais je lâche pas ce temps-là, je vais pas genre me dire je dors 10 minutes de plus. Et du coup, j'ai vraiment gardé la routine de yoga. Et,
du coup, tu appuies sur quel type de yoga? C'est quoi tes inspirations?
Alors, le yoga que je pratique toutes les semaines, c'est du Kundalini yoga. Mais du coup, c'est pas forcément. Enfin, si, je fais quand même quelques postures de Kundalini, mais c'est vrai que c'est plus un yoga adapté au groupe. Et au final, c'est des postures, ouais, de Hatha globalement que je fais. Mais effectivement, quand même quelques postures de Kundalini qui sont dynamiques, et quelques mouvements de Pilates aussi qui étaient dans la routine de la chorégraphe justement sénégalaise. C'est vraiment ma base tous les matins, où que ce soit. Et justement là, je viens de faire un voyage à vélo en France de 450 km en 5 jours, sachant que je n'avais jamais fait ça et que mon plus long trajet en vélo, c'était 20 km. Franchement, ouais, ça a vraiment joué aussi, parce que le matin, voilà, tous les matins, je me dis, ma petite routine de yoga, même, voilà, 10, même 10 minutes avant de partir, et pareil le soir, vraiment, voilà, des étirements, aussi la petite session huile d'arnica pour voilà, bien remercier ton corps de tous les efforts qu'il a fait pendant la journée. Une fois que j'ai fait ça, la routine de yoga, souvent bah, je prends soit j'ai du thé que j'ai déjà fait, que je me réchauffe, soit je me fais chauffer un thé, c'est quand même la base, et après j'écris. Et donc ma routine d'écriture, ça varie, mais il y a toujours effectivement les gratitudes de maintenant, les gratitudes dans le futur, et ça me permet vraiment de commencer la journée sur une bonne énergie, puis de poser aussi tous les trucs que j'ai dans la tête qui m'aident pas forcément. Et puis ce qui est assez chouette avec ce truc-là, Olivia Quero, elle appelait ça la liste de ceux qui me turlupine, c'est que tu regardes genre des fois 3-4 jours après et tu fais « Ah ouais, ça te posait problème ?» Ouais, ça va en fait, non? Genre, c'est des trucs qui sont réglés hyper facilement après, ou c'est des trucs que tu fais, mais non, mais ça a aucune. Enfin, c'est pas gênant en fait, ce truc-là. Enfin, un peu de méditation, mais pas forcément. Enfin, du coup, ça me rajoute quand même beaucoup de choses dans la routine, et au bout d'un moment, je me dis, ouais, c'est pas forcément à ce moment-là que j'ai envie de faire de la méditation. Et puis là, quand je suis à Bordeaux, il y a des travaux qui sont pas du tout propices à la méditation. Donc, la méditation peut se faire quand les travaux sont terminés ou avant, mais vu qu'ils commencent à 7 heures, c'est un peu chaud.
T'as pratiqué aussi le yoga du rire?
Oui, alors ça, c'était une découverte aussi aurovillienne. Mais voilà, enfin ça, non, mais j'étais absolument pas prévue. C'est juste que j'avais vu, tiens, un après-midi, yoga du rire. Je fais, ah ouais, chouette. Et effectivement, c'était juste génial comme expérience. Et ça met effectivement dans un état mais assez incroyable. Il parle de natural high. Et effectivement, il y a un peu de ça. Et du coup, bah, le prof me dit, mais tu sais, ce week-end, j'organise une formation pour des leaders de yoga du rire. Si ça t'intéresse, bah, ah tiens, bah ouais, écoute, ça a l'air chouette. Et donc, du coup, voilà, me voilà partie pour un week-end de formation de yoga du rire, donc avec un Tchèque, une Israélienne et une Franco-Ouzbèque. Voilà, le tout dirigé par un Indien qui vit à Auroville et effectivement, ancien ingénieur informatique. Et maintenant prof de yoga et prof de chant de mantra aussi. Yoga du rire, c'est vrai que c'était hyper, c'est vraiment chouette parce qu'à premier abord, on se dit ouais, non, mais ça n'a rien de sérieux, c'est quoi ce truc? Et sauf qu'au final, l'idée, c'est d'utiliser le rire comme un pranayama et parce qu'effectivement, c'est vraiment une respiration qui te permet de vider tout l'air et de vraiment tout nettoyer dans ton corps. Et en fait, il y a des vrais fondements scientifiques derrière et puis ouais pour l'avoir pratiqué c'est vrai que c'est énorme et ça a vraiment aussi ce côté revenir à son enfant intérieur et à faire des jeux avec des gens mais que tu n'as jamais eu d'avant parce que un truc aussi c'est que c'est pas du tout lié aux blagues enfin c'est pas du tout lié à l'humour et du coup c'est un truc que je trouve très chouette aussi c'est pas forcément culturel du coup parce que c'est vraiment basé sur la respiration, il y a des exercices de respiration et puis des petits jeux effectivement bah, pour lancer le rire et puis de toute façon il y a forcément des gens qui vont avoir un rire communicatif et en fait le truc c'est ouais je crois que le plus difficile en fait c'est que le truc s'arrête parce qu'il y a vraiment des fois où ça repartait mais genre mais sans fin quoi mais ça fait ouais ça fait vraiment du bien.
Donc, est-ce que ça consiste simplement en un type de respiration? Est-ce qu'il y a des postures aussi? Est-ce que
c'est clairement en groupe? Je pense que ça peut se faire tout seul, mais c'est pas forcément évident. Mais effectivement, le groupe, c'est hyper chouette. Et ça commence par une méditation pour justement se mettre dans l'instant. Donc vraiment méditation guidée. Enfin, j'allais dire un peu plus simple, mais voilà, type scan corporel. Et après, ça peut partir. Alors si les gens se le sentent par juste un rire pour rien, mais de commencer par ça, c'est pas forcément toujours évident. Et après, il y a tout un tas de petits jeux, mais dont les limites sont juste l'imagination. Enfin, il y avait un truc que moi j'aimais bien, notamment sur les chakras, donc c'est des trucs assez débiles, mais genre, si au niveau du. Au niveau du chakra du bas, enfin chakra racine, tu fais ho ho ho, tu montes au niveau du chakra du cœur, c'est ha ha ha, et au niveau de la gorge, c'est hi hi hi. Et après, tu changes, et forcément, tu finis par perdre les gens à faire ho ha hi, et t'as forcément un moment où t'en as un qui se marre de toute façon à faire ça. Clairement, on a tous l'air débiles à faire ça, et en même temps, et c'est vraiment drôle, et c'est vraiment ce truc aussi de, bah, tu poses ton mental et tu joues comme si t'avais 3 ans, et juste tu t'éclates à jouer comme si tu avais 3 ans, quoi.
Du coup, qu'est-ce que tu apprends dans tous ces voyages? Qu'est-ce que l'entrepreneur qui est en toi tire comme leçon de tous ces voyages? Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux autres entrepreneurs à partir de ça?
Et ben beaucoup de choses en termes d'adaptation, en termes d'habitude aussi, en termes de comment on gère son temps, comment on... Parce que l'idée, en fait, c'est effectivement de garder ses habitudes, mais en même temps, on est toujours dans la découverte et que la journée que je vais faire, par exemple, dans le même cadre que je vais faire à Bordeaux, où je connais l'endroit, je connais, enfin, il n'y a pas forcément de surprise. Si je fais la même ailleurs, Ben, j'ai l'impression en fait ouais, qu'elle est plus longue et il y a vraiment ce truc de ralentir le temps avec le côté découverte, découverte constante et puis de changer d'environnement. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, je sais que quand je suis dans la nature, vibration augmente, fou du soleil, de la nature, pieds nus. Forcément, je me sens beaucoup mieux que sous la pluie en ville. Renfermé à l'intérieur. Et là, j'ai fait beaucoup de couchsurfing et je vais continuer à le faire. Et ça aussi, c'est un truc qui est vraiment génial dans l'idée de bah ouais, connaître d'autres êtres humains et se rendre compte que finalement, bah, on a vachement de points communs avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément pensé avoir de points communs, qui sont dans d'autres réalités super différentes.
Petite définition du couchsurfing pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, carrément. Le couchsurfing, donc c'est le fait d'aller dormir sur le canapé de quelqu'un. Donc il n'y a pas d'échange d'argent. L'idée, c'est vraiment la rencontre. Donc après, chacun met ses besoins, ses envies. Donc il y a des gens qui disent oui, alors je veux absolument qu'on fasse un dîner ensemble. Il y en a d'autres, bah c'est je suis désolée, je serais hyper bookée, mais vas-y, tu peux quand même venir à la maison. Enfin, et du coup, voilà, c'est toujours des choses sur mesure et après ça peut arriver effectivement. J'ai réussi, c'était mais quand j'étais à Bruxelles. Normalement en couchsurfing on reste plutôt ouais 2 nuits, quelque chose comme ça, et donc moi j'étais à Bruxelles 5 jours, et du coup le gars me dit ah mais si tu peux rester 5 jours et tout machin. Je fais bon bah ok, allez let's go pour 5 jours. Et effectivement je comprends complètement, parce que finalement bah le premier soir je l'ai pas vu parce qu'il avait une soirée, le lendemain il était pas là non plus et on s'est vu après. Et en même temps c'était génial parce que du coup bah j'avais la maison finalement pour quasi moi toute seule et sa coloc qui bossait aussi, donc ben on a bossé toutes les deux à la maison. Enfin il y a des jours où j'étais même toute seule, enfin c'était du coup super. Et effectivement c'est comme c'est comme un Airbnb. Non, finalement c'était mieux parce que c'était un Airbnb avec des gens avec qui il partageait des choses le soir. Du coup ouais, lui il était très très engagé aussi niveau écologie, voyager beaucoup, enfin c'était vraiment ouais, super super enrichissant. Et c'est vrai que ça permet de faire des rencontres qu'on fait pas autrement, quoi.
Est-ce que tu arrives à chaque fois à trouver l'environnement pour faire tes routines du matin, pour faire tes routines boulot aussi, enfin, comment tu arrives à organiser ça?
Après là effectivement là où c'était le plus fluide ouais ça a été effectivement bah, Amsterdam ou là bah, du coup Amsterdam à Bruxelles où justement là j'avais la possibilité de le faire. Amsterdam, je l'ai fait aussi, mais justement, c'était chez quelqu'un qui était moins dispo. Donc, effectivement, bah, la routine yoga le matin, c'était un peu plus speed. Après, pour aller bosser, donc j'allais bosser dans un café. Donc là, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que le côté confort de le faire depuis la maison, c'est quand même super. Ou depuis un café, effectivement. À Auroville, là, en étant en extérieur, j'avoue que c'était quand même particulièrement agréable.
Et donc, parmi tous les trucs que tu proposes aussi aux entrepreneurs de partir en voyage avec toi ?
Oui, voilà, parce que j'ai eu un gros coup de cœur maintenant. Bah, ça va faire 3 ans quand même hein, pour le désert du sud Maroc. Et donc je suis partie. Bah, ça fait 3 fois maintenant que je suis partie là-bas. Et à chaque fois dans des contextes différents, en version seule, en version groupe de yoga. Et là, l'idée, c'est d'emmener des entrepreneurs justement à la découverte de cet endroit-là, dans le désert. Et c'est vraiment de renouer avec la simplicité, renouer avec la lenteur, parce que l'idée, c'est de surtout pas y aller en 4x4, surtout pas, mais d'y aller bah, comme les nomades à l'ancienne, avec les dromadaires, avec tout le matos dessus pour cuisiner, sachant que c'est pas nous qui cuisinons. En plus, il y a des cuisiniers, chameliers qui sont là pour ça. Et c'est top parce que c'est vraiment plus de 5 jours de déconnexion pure, donc sans internet justement là, sachant que en vrai potentiellement il y a moyen de se connecter parce que le réseau il va hyper loin dans le désert parce que quasiment rien ne l'arrête. Donc en vrai il y a moyen, mais si on n'a pas une carte marocaine normalement c'est bon, on peut se déconnecter. Puis de toute façon voilà, il suffit. L'idée étant quand même de décider de se déconnecter. 5 jours, ça peut quand même vraiment faire du bien, et voilà, et vraiment de se reconnecter à la nature et au temps aussi, parce que finalement, ben, On est là aussi encore sur une routine de toute façon, parce que le matin, on se lève avec le lever du soleil, généralement vers 7 heures. Et puis là, voilà, pareil, ma petite routine de yoga, donc forcément la faire sur les dunes ou au creux d'une dune, c'est quand même particulièrement chouette. Et après, départ, parce que quand il fait chaud vraiment dans l'après-midi, c'est plus faisable de marcher. Donc il y a une grosse pause à la louche entre midi et 16 heures, selon les endroits, selon les envies aussi de voir un coucher de soleil sur une dune, ça peut être un peu plus tard ou voilà, tout dépend de là où on est, mais vraiment voilà, de se laisser porter et de marcher au rythme des dromadaires, et ça a vraiment un côté mais hyper méditatif de regarder les pas ça là dans le sable. Juste, alors, l'attente pour ceux qui veulent, mais la possibilité de dormir à la Belle Étoile, moi, je sais que je suis trop fan de dormir à la Belle Étoile, et non, il n'y a pas d'armée de scorpions qui viennent, et non, les dromadaires ne viennent pas, enfin, c'est assez marrant, mais ils vont jamais écraser un humain, en fait, les dromadaires, ils savent, ils ont beau se balader dans les parages, sauf si, effectivement, il y a quelqu'un qui essaye de, genre, se cacher derrière sa patte et qui le fait flipper, là, il le prendrait mal, mais des gens qui dorment par terre, il va jamais s'amuser à marcher dessus. Donc moi j'avoue que ça me faisait flipper hein, au tout début, mais non, en vrai il n'y a pas de souci.
Donc, ça dure combien donc ce voyage?
C'est 5 jours dans le désert, et c'est vraiment en fait après Ouarzazate et après Zagora, c'est 1h30 de Zagora, et donc en bus, enfin moi je l'ai fait plusieurs fois en bus, c'est quand même 10h30 de bus de Marrakech, mais il y a moyen de faire aussi des vols jusqu'à Zagora, donc après tout dépend des villes de départ des gens. Les gens qui sont à, je crois que c'est Marseille, ils sont assez privilégiés, je crois, parce qu'il y a des vols assez rapides. C'est une semaine pour avoir le temps de trajet. Et après, il y a un festival, mais que je ne connais pas encore, donc je ne peux pas complètement le recommander, mais auquel je serai, un festival Taragalt sur les cultures et musique nomade. Moi qui suis assez fan de ça, j'y serai aussi. Ça, ce sera en novembre, après le voyage dans le désert.
Comment on peut te retrouver pour connaître la suite de tes aventures, pour connaître les prochains voyages que tu organises?
Sur mon site donc, qui s'appelle Devenir Digital Nomade. Et sur mon Facebook donc, qui s'appelle aussi Devenir Digital Nomade, et puis je partage aussi les choses sur mon profil perso Amélie Macouin pour ceux qui me suivent déjà, mais voilà, la majorité des infos c'est sur Devenir Digital Nomade.
Ok, trop cool. Bon, je pense que tu nous as tous inspirés à essayer de voir comment on peut chacun aménager cette espèce d'équilibre entre productivité, voyage et aussi un côté un petit côté slowpreneur hein.
Oui, complètement. Ouais, effectivement, ouais, de prendre le temps, de faire les choses et justement, enfin moi, c'est pas forcément ma nature à la base. Enfin, j'ai quand même vraiment cette envie d'aller vite et de faire un truc vite. Et le truc, c'est que mais ça fonctionne pas trop. Et là, je me rends compte dans pas mal de choses que finalement, tu fais non, mais en fait, là, j'ai voulu aller vite, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça en fait? Et là, de recreuser, et du coup. Ouais, on se rend. Mais c'est passionnant. Il y a plein de choses à apprendre en voyageant et avec l'entrepreneuriat. Ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Que j'ai découvert en me plongeant dedans, quoi. Effectivement. Et à premier abord, je pensais pas que c'était aussi riche. Et puis je pensais, que c'était juste la vie professionnelle en fait que ça concernait. Mais non, c'est un poil plus large.
Merci beaucoup Amélie pour ce partage d'histoire, de voyage, de carnet de bord. Tu nous as envoyé plein d'exotisme. À très vite.
Merci à toi, c'est très chouette. Ciao.
Ciao, ciao.